Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est en présence de la Vierge Marie que nous voulons maintenant vivre cette catéchèse qui nous est donnée de vivre maintenant. Alors plaçons-nous sous son regard, en sa présence, et disons-lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons clôturer cette semaine avec cette grande thématique qui nous aura pris beaucoup de catéchèses avec bonheur sur la prière, et nous sommes à la fin de cette quatrième partie du catéchisme de l'Église catholique, à partir du paragraphe 2697 et suivant. Nous allons voir la vie de prière, les expressions de la prière, donc nous parlerons de la prière vocale, de la méditation, de l'oraison. Et le catéchisme nous dit, la prière est la vie du cœur nouveau. Ah, ça c'est bon ça. Et tout est là. Chantez au Seigneur un chant nouveau, dit le psaume. Alors comment chanter au Seigneur un chant nouveau si notre cœur n'est pas nouveau? Ah, saint Augustin, il a des jolies paroles là-dessus. Et oui, c'est parce que notre cœur est nouveau, a été refait, que nous pouvons chanter l'Alléluia de Pâques. Le chant nouveau, c'est le chant de celui qui est passé les ténèbres à la lumière. C'est celui du sauvé, celui qui croit qu'il est aimé, qu'il a été transféré des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu, qu'il est, ça y est, dans le royaume de Dieu, qu'il est aimé pour toujours. Le cœur nouveau chante. Le cœur qui n'est pas nouveau râle, se plaint, murmure et dans la révolte, c'est le vieil homme qui demande sa part pour vivre sa vie selon ses convoitises. Oh, ça c'est pas le cœur nouveau, ça. Le cœur nouveau, c'est celui qui est assis à la droite du Père, dans le repos de l'amour, et qui chante Alléluia. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Alors vous voyez, rien que cette petite phrase du catéchisme, du paragraphe 2697, la prière est la vie du cœur nouveau. Voilà, donc si on n'est pas dans le cœur nouveau, hop, 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 on se remet, on se recale, avec un acte de foi. Le Christ habite en vos cœurs par la foi, dit saint Paul. C'est-à-dire que par un acte de foi, je rejoins la présence de Dieu qui est déjà là dans mon cœur, si je suis chrétien baptisé. Par un acte de foi, je peux rejoindre le ressuscité. C'est si grand, l'acte de foi. Quel que soit mon problème, quelle que soit ma difficulté, quel que soit mon état de santé, je crois, Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus. Alors, cette prière doit nous animer à tout moment. Or, nous oublions celui qui est notre vie et notre tout. C'est pourquoi les pères spirituels, dans la tradition du Deutéronome et des prophètes, insistent sur la prière comme souvenir de Dieu, entre guillemets, réveil fréquent de la mémoire du cœur, entre guillemets. Il faut se souvenir de Dieu plus souvent qu'on ne respire, dit saint Grégoire de Nazianze. Mais on ne peut pas prier en tout temps si l'on ne prie pas à certains moments, en le voulant. Ce sont les temps forts de la prière chrétienne en intensité et en durée. La tradition de l'Église propose aux fidèles des rythmes de prière destinés à nourrir la prière continuelle, Alors vous voyez bien, frères et sœurs, que l'axe, c'est la prière continuelle. C'est le prier sans cesse de Jésus dans l'Évangile, sans vous décourager. Et c'est le prier sans cesse de saint Paul, animé par le Saint-Esprit, qui dit et qui nous écrit « Priez sans cesse ». S'il le dit, c'est que lui-même, il s'est mis à l'école de la prière continuelle. Jésus priait sans cesse. Marie priait sans cesse. Saint Joseph priait sans cesse. Les apôtres ont appris à prier sans cesse. Mais alors, avec ma vie de fou que je vis, avec tous les trucs que j'ai à faire, je n'arrive pas à prier, à prendre des moments. Prier sans cesse, c'est bon pour les moines, ils ont tout disposé pour ça. Ils ont calé des horaires, ils ont tout bien disposé. C'est facile. Puis ils n'ont pas les soucis du monde. Ils n'ont pas le rythme des familles avec les enfants, l'école, le boulot, nanani, les courses, tout ce qui fait qu'un quotidien d'une famille est très chargé en activité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La tradition de l'Église propose aux fidèles des rythmes de prière destinés à nourrir la prière continuelle. Certains sont quotidiens. La prière du matin et du soir, avant et après les repas, la liturgie des heures, le dimanche, centré sur l'Eucharistie et sanctifié principalement par la prière. Il y a le cycle de l'année liturgique et ses grandes fêtes qui sont des rythmes fondamentaux de la vie de prière des chrétiens. Le cycle liturgique qui a comme point de départ le mystère pascal du Christ, la Pâque. Le Christ est ressuscité, c'est le point de départ. La vie, la prière et la vie du cœur nouveau. Alors tout le cycle liturgique s'est organisé à partir de la victoire du Christ sur le péché, sur la mort, sur toutes les puissances de ténèbres. On part de là pour vivre de la victoire du Christ dans notre vie quotidienne, dans notre prière. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Alors, fort de cette victoire, habité par la victoire du Christ, habité par le Christ ressuscité, bien sûr que le matin, ben, on va prendre un petit moment, hein, un petit moment de prière du matin. Bien sûr qu'avant de se coucher, on va remettre sa journée, remettre sa nuit entre les mains de Dieu. Nos personnes, bien sûr. Prière du matin, prière du soir. Vous avez de très belles prières du matin sur Radio Maria, bien sûr. La prière du soir avec les complis. La prière en famille à 19h40. Les enfants vont se coucher. Et puis, vous avez les complis à 22h. Et puis, pour ceux qui se couchent plus tard, voilà, le programme continue. Mais il y a la liturgie des heures, tous les offices, la messe. Nous avons rajouté quelques petits chapelets, hein, le rosaire tous les jours sur Radio Maria. Alléluia. Et tous ces moments de prière nous sont donnés pour nous mettre en état de prière. Pour faire en sorte que quand l'époux vient, eh bien nous ne soyons pas de ces vierges folles qui se sont assoupies, endormies, comme quelques disciples à Gethsémani endormis de tristesse. La tristesse nous fait rater l'époux qui vient. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, dit le Seigneur. Celui qui est, qui était et qui vient. Alors, bien sûr, si nous sommes en état de prière, sans forcément à penser consciemment au Seigneur, mais si notre cœur nouveau vibre à l'amour et la charité, nous allons le voir. Alors, nous nous disposons merveilleusement à accueillir l'époux quand il vient parce que on est prêt. On est déjà avec celui qui est, qui était et qui vient. Que nous soyons au travail, que nous soyons en train de prendre un moyen de transport, que nous soyons en train de prendre notre douche, que nous soyons de faire l'activité qui est la nôtre, notre cœur peut être habité par le Seigneur. Notre cœur peut être connecté par le Seigneur qui habite notre cœur, sans forcément tomber dans une espèce de tension mentale où on se dit « Mais où est-ce que j'en suis dans le mystère ? Est-ce que je suis au quatrième mystère lumineux, cinquième ? Moi, je ne sais plus, moi, mais puis... Et puis, je ne me rends pas très présent à ce que je dois faire, vous voyez ? Et puis, du coup, ben, je fais mal ce que je fais parce que je me mets une tension. » Pour ne pas rater la prière. Or, les moments de prière nous disposent à être tout au long de la journée en état de prière. Le Seigneur conduit chaque personne par les chemins et de la manière qui lui plaise. Chaque fidèle lui répond aussi selon la détermination de son cœur et les expressions personnelles de sa prière. Je reviens sur cette petite phrase que le catéchisme nous dit dans le paragraphe 2698. Le cycle de Koutoukoutouk, j'ai vu ça, mais c'était où, tiens? Ah oui, voilà, 2697. Si l'on ne prie pas à certains moments, en le voulant, on ne peut pas prier en tout temps. Ah, il faut le vouloir. Eh oui. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsque je débarquais à Medjugorje, en 1997, il y avait le père Slavko, à l'époque, qui recevait les fidèles, et comme il parlait français, il recevait les fidèles français, francophones, et il parlait beaucoup de ça, il insistait beaucoup sur le choix, sur la détermination de choisir de prendre des temps de prière. Et il disait avec son accent, « Mais vous prenez le temps de faire ce que vous voulez dans la journée. Quand vous aimez quelque chose, vous faites en sorte de pouvoir accomplir ce que vous aimez faire. Si vous aimez le cinéma, vous faites en sorte et vous prenez le temps et les moyens de parvenir à aller voir les films que vous voulez voir. Ça prend du temps. C'est une organisation. Mais vous le faites parce que vous aimez aller au cinéma. Et que vous vous dites, ce film-là va me plaire, ça m'attire. Et donc, je m'organise pour aller le voir. Donc, vous prenez du temps. Et puis, le film en lui-même, ça prend du temps. Vous aimez, je ne sais pas, aller au restaurant avec vos amis. Vous aimez faire du vélo. Ben, vous allez... Vous allez vous organiser pour pouvoir en faire, parce que vous aimez. Alors le père Slavko nous disait, mais si vous n'arrivez pas à prendre quelques temps, quelques moments de prière, ce n'est pas que vous n'avez pas le temps. C'est que vous n'avez pas d'amour. Ce qu'il vous manque, ce n'est pas le temps. C'est l'amour. Alors, je l'avais trouvé un petit peu... Oh, il exagère un peu, ce père. Mais, il avait raison. C'est vrai, frères et sœurs. Ce n'est pas le temps qui nous manque. C'est l'amour. Réfléchissons à cela. Lorsque je dis « je n'ai pas le temps de prier », bien sûr, on s'imagine qu'il faut prendre 4 heures, 3 heures, 2 heures. Non, pas forcément. Mais c'est l'amour. Pensons que le temps s'organise en fonction de l'amour, de ce que je veux vivre. Si je veux prier, je peux le faire. Si je veux prendre des temps de prière, je peux le faire. Si je n'arrive pas, regardons un petit peu où se trouve notre détermination. Mais on ne peut pas prier en tout temps si l'on ne prie pas à certains moments en le voulant. C'est un choix. Regardons un petit peu le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, en regardant la télé. Regardons un petit peu comment nous occupons notre temps. Le temps, comme l'espace d'ailleurs, mais le temps est fait pour être sanctifié. C'est pourquoi la liturgie des heures existe, c'est pourquoi l'Eucharistie, l'appelée la prière de l'Église, existe pour sanctifier le temps. Car le temps nous est donné, c'est un don de Dieu. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais du temps qui m'est donné ? 24 heures. Bon. Eh bien que chacun s'organise et que chacun occupe son temps selon l'amour. L'espace, le lieu, est aussi comme le temps, comme l'écrin qui nous permet, qui nous est donné pour la rencontre, pour l'amour, qui, de par notre corporéité, nous sommes dans un lieu. En attendant de pouvoir biloquer, triloquer, comme quelques saints, et nous sommes dans un lieu, limité par notre corporéité matérielle qui, voilà, j'ai beau vouloir être à Strasbourg, ben je suis à la garde. J'ai beau penser à Strasbourg, ben je suis à la garde. Il y a donc un lieu qui m'est donné. En vue de quoi ? En vue de vivre la charité. Pareil pour le temps. Le temps et l'espace sont des dons de Dieu qui nous sont donnés, donc, pour nous dire, tu vois, je te donne l'espace. Tu es dans un lieu. Tu marches, tu passes de lieu en lieu, tu as des allées et des venues, tu as des itinéraires, des traversées. Ils ont beaucoup marché en Terre Sainte il y a 2000 ans. Eh bien, tous ces espaces parcourus, c'est pourquoi ? C'est pour nous faire découvrir le sens du lieu et de l'espace. Alors, il y a le temple de Jérusalem. Ce qui donne le sens à l'espace, c'est le temple. Le temple, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et puis, il y a le temps, c'est-à-dire qu'on monte à Jérusalem, il y a des temps de pèlerinage, et on se déplace, mais on va dans un lieu, mais il y a le temps, ça dure un certain temps, il y a des pèlerinages qui durent 24 heures, 48 heures, 5 jours, une semaine. Et tout le temps est rythmé. Lorsqu'on regarde la Bible, c'est assez impressionnant. Aussi, le temps est rythmé. Il y a une année qui est d'emblée liturgique. L'année civile, c'est une année païenne. Démarrer le 1er janvier, finir en 31 décembre, bon, ok, mais bon, c'est païen. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien avec l'alliance avec Dieu. Aucun. C'est l'homme qui dit, bon, moi je commence le 1er janvier, et puis je finis le 31 décembre. Et puis il a l'impression de changer d'année à minuit le 31 décembre, et alors il s'excite un peu, mais bon. Bon. L'année liturgique, c'est tout autre. C'est tout autre parce que l'année liturgique est en fonction de l'alliance avec Dieu, de la révélation de Dieu, qui s'est révélée dans le temps. Et dans l'espace, il y a eu un jardin d'Éden, il y a eu un lieu où Dieu venait rencontrer Adam et Ève. Et Adam et Ève ont été inscrits dans un temps, dans un itinéraire à parcourir, un cheminement qui demande une certaine croissance, qui demande, oui, une croissance. S'il y a un rythme, s'il y a un temps, c'est pour que nous puissions nous enraciner, grandir, se déployer, déployer le mystère de l'alliance, c'est-à-dire cet amour que Dieu nous porte, que nous portons au Seigneur, et que ça pousse, ça grandisse. Le temps est si important pour l'amour. On le voit, par exemple, pour ceux et celles qui se préparent au mariage. On ne se marie pas du jour au lendemain. Il faut du temps. Il faut apprendre à se connaître. Ah, on n'habite pas les uns avec les autres, chez les autres, tout de suite. Non, 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 on attend un peu. On ne fait pas des bébés tout de suite aussi. On attend. Pourquoi? Parce que le temps est au service de l'amour, si on sait bien l'utiliser. On se dit, on va prendre le temps de bien se connaître, de laisser l'amour s'enraciner. Car si nous ne laissons pas l'amour s'enraciner, alors on vivra avec nos passions, avec nos désirs d'un moment. Et c'est un peu les montagnes russes, hein, les désirs, les passions. Bon. Un coup, ça exalte, puis c'est la dépression. C'est la déprime. Et puis ça remonte, et puis ça redescend, et puis ça remonte, ça redescend. Bon, c'est l'amour, passion. Bon. Mais l'amour spirituel, et encore plus, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme et de la femme, demande de s'enraciner dans le temps. Alors, merci Seigneur pour l'espace et le temps. Et merci de nous faire vivre cette vie de prière, c'est-à-dire notre relation avec toi, dans le temps et l'espace. Alors, le Seigneur conduit chaque personne par les chemins et de la manière qui lui plaise. Chaque fidèle lui répond aussi selon la détermination de son cœur, nous avons vu, et les expressions personnelles de sa prière. Cependant, la tradition chrétienne a retenu trois expressions majeures de la vie de prière. Deux points. La prière vocale, la méditation, l'oraison. Un trait fondamental leur est commun, le recueillement du cœur. C'est beau ça, comme expression, le recueillement du cœur, le cœur qui se recueille, qui se cueille à nouveau, qui se remet d'aplomb. Hein. Cette vigilance à garder la parole de Dieu et à demeurer en présence de Dieu fait de ces trois expressions des temps forts de la vie de prière. Alors, ensuite, le catéchisme déploie un petit peu, développe un petit peu ces trois aspects. La prière vocale, la méditation, l'oraison, nous sommes dans les expressions de la prière. La prière vocale. Par sa parole, Dieu parle à l'homme. C'est par des paroles, mentales ou vocales, que notre prière prend corps. Mais le plus important est la présence du cœur à celui à qui nous parlons dans la prière. Que notre prière soit entendue dépend non de la quantité de paroles, mais de la ferveur de nos âmes. Oui, les païens s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont faire craquer le bon Dieu. Rappelez-vous aussi les 450 prophètes de Baal. Ah, oh, ils y allaient en paroles. Mais ça ne marchait pas, non. Parce que lui, Élie, il était tranquille. Et il était dans la ferveur. Et dans la foi au Dieu unique. Bon. Il vous est sûrement déjà arrivé d'être comme frappé, comme arrêté devant le mystère de celui qui prie, de celui qui se tient en présence de son Dieu, qui a les yeux fermés, qui est dans son cœur avec son Dieu. Et vous êtes dit, bon, ben je ne vais pas l'embêter, il est en train de prier, je ne vais pas frapper sur son épaule. Mon père, où est-ce que vous avez mis les clés de la sacristie, hein? C'est quelque chose d'important. C'est de l'ordre de la qualité de présence. La prière vocale est une donnée indispensable de la vie chrétienne. Aux disciples, attirés par la prière silencieuse de leur maître, celui-ci enseigne une prière vocale, le Notre Père. Jésus n'a pas seulement prié les prières liturgiques de la synagogue, les évangiles nous le montrent élever la voix pour exprimer sa prière personnelle, de la bénédiction exultante du Père jusqu'à la détresse de Gethsémani. Ce besoin d'associer les sens à la prière intérieure répond à une exigence de notre nature humaine. Nous sommes corps et esprit, et nous éprouvons le besoin de traduire extérieurement nos sentiments. Il faut prier avec tout notre être pour donner à notre supplication toute la puissance possible. Alors voilà, un petit mot là-dessus. Il faut être bien, vous savez, quand on prie. Bien dans notre cœur nouveau. Et aussi, dans la mesure du possible, bien sûr, si on est sur un lit d'hôpital avec plein de médicaments pour lutter contre la douleur, c'est pas facile forcément. Mais, hors cas particulier, lorsque nous prenons un temps de prière, un moment de prière, il faut qu'on soit bien. Il faut pas qu'on se mette dans une posture, j'allais dire, corporelle ou qui nous ferait dormir, d'une part, ou bien qui nous ferait mal un peu, vous voyez, où tout le temps on bougerait parce qu'on n'est pas bien. Il faut être juste bien. Nous n'avons pas de posture particulière. Bien sûr, on peut se mettre à genoux. Il peut y avoir des petits bancs de prière. Il peut y avoir une chaise. Il peut y avoir un banc. Bon, j'allais dire, peu importe. Il faut que notre posture corporelle, j'allais dire, soit non, je cherche le mot, vous voyez, un peu. Il faut que ce soit simple. Il faut que nous soyons nous-mêmes. Il ne faut pas qu'il y ait de surcharge. Mais alors, si nous voulons prier tel que nous sommes, n'hésitons pas. Selon notre sensibilité, il n'y a aucun problème à lever les mains. Bien sûr, si vous êtes dans un cadre communautaire, vous devez respecter le cadre communautaire. Mais tout seul, vous pouvez lever les mains, vous pouvez chanter, danser, vous pouvez danser chez vous, hein, pas de problème, hein. Pour exprimer votre amour, votre louange, votre action de grâce, votre joie d'être aimé, votre joie de connaître le Seigneur, votre amour tout simplement. Mais vous pouvez chanter, danser, sauter, tout ce que vous voulez. Soyez libre, soyez vous-même. Et ne prenons pas l'air pieux. Soyons nous-mêmes. Hein? N'essayons pas d'imiter une espèce de modèle imaginaire. Vous voyez, les mains croisées, les mains une sur l'autre, avec la tête qui penche à 45 degrés. Ne tombons pas dans la fausse piété hypocrite. Restons nous-mêmes. Soyons simples devant notre Père du ciel. Il n'y a pas, vous voyez, besoin de croiser les jambes et de se mettre dans des postures comme celle du yoga. Non. Il vaut mieux même éviter le yoga. Il vaut mieux même éviter, j'allais dire, toute posture corporelle qui est liée à une spiritualité qui n'est pas chrétienne, éprouvée dans le temps depuis 2000 ans, voyez. Ne soyons pas des exotiques des spiritualités orientales en nous disant mais c'est super, ça vient de l'Orient, donc c'est super. Non. On ne peut pas, justement, parce que nous sommes corps et esprit, dit le catéchisme, faire du yoga lorsque nous sommes chrétiens. Il n'y a pas de yoga chrétien. Parce que le yoga est intrinsèquement spirituel. Intrinsèquement, lorsque nous faisons du yoga, il y a des choses dans des dimensions de notre être qui s'ouvrent. Il y a des chakras qui s'ouvrent. Il y a des espaces intérieurs qui s'ouvrent, qui ne sont pas des ouvertures au Saint-Esprit, à l'Esprit de Jésus, à l'Esprit du Père. Il faut être très clair, et je suis ce matin, aujourd'hui, très clair avec vous. Si vous faites du yoga, votre prière n'est pas chrétienne. Nous sommes dans l'expression de la prière, hein? Avec l'expression corporelle. Ce besoin répond aussi à une exigence divine. Ce besoin d'associer les sens à la prière intérieure répond à une exigence de notre nature humaine. Nous sommes corps et esprit et nous éprouvons le besoin de traduire extérieurement nos sentiments. Il faut prier avec tout notre être pour donner à notre supplication toute la puissance possible. Ce besoin répond aussi à une exigence divine. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et par conséquent, la prière qui monte vivante des profondeurs de l'âme. Il veut aussi l'expression extérieure qui associe le corps à la prière intérieure, car elle lui apporte cet hommage parfait de tout ce à quoi il a droit. Parce qu'extérieure est si pleinement humaine, la prière vocale est par excellence la prière des foules. Mais aussi la prière la plus intérieure ne saurait négliger la prière vocale. La prière devient intérieure dans la mesure où nous prenons conscience de celui à qui nous parlons. Alors la prière vocale devient une première forme de la prière contemplative. Nous avons déjà parlé d'invoquer le nom du Seigneur. Ce nom de Jésus, avec cette prière vocale traditionnelle de Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Et nous avons bien souligné qu'il était hors de question de nous autoflageller en disant, prends pitié de moi, pécheur. Nous avons déjà parlé de cette posture intérieure qui, lorsque nous prions, élimine toute culpabilité. On est d'accord? La prière est la vie du cœur nouveau. Cœur nouveau, est-ce qu'il s'autoflagelle? Non. Lorsqu'il dit « Prends pitié de moi, pécheur », il s'unit à cette humanité, oui, de fait, parce qu'il est rempli de compassion pour cette humanité qui ne connaît pas Dieu. Mais celui qui a un cœur nouveau, il connaît Dieu, il connaît son Père, alors il le loue, il le bénit, il l'invoque du dedans. Non seulement en communion avec le Père, avec l'Esprit Saint, mais en communion avec l'humanité, nos frères et sœurs. C'est donc au nom de tous que nous sommes appelés à prier. Mais rappelons que notre prière chrétienne, elle est trinitaire. Nous nous adressons au Père par le Fils, en l'Esprit Saint. Nous nous adressons à Jésus car il est Dieu, vraiment Dieu, fait homme, mais il est Dieu, sa personne est divine. Alors nous l'adorons. Nous nous adressons au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est Dieu. Ça fait combien de dieux? Ben, ça fait un. Mais il y a une circulation, il y a des personnes divines. Et Jésus, par le fait même qu'il se soit tout Dieu qu'il est, toute deuxième personne de la Sainte Trinité qu'il est, il a pris une nature humaine. Et donc, dans sa nature humaine, il a prié. le cœur humain du Christ, c'est par l'humanité sainte du Christ que nous prions dans la ferveur de l'Esprit Saint. Abba, Père. Il y a donc des paroles, oui, des paroles vocales que nous pouvons dire, Abba, Père. Mais que ne ce soit pas un exercice mental. Il n'y a pas de mantra dans la prière chrétienne. Soyons clairs, il n'y a pas de mantra dans la prière chrétienne. Les mantras ne sont pas dans l'univers de la prière chrétienne. C'est autre chose. Ça ouvre d'autres espaces, à d'autres réalités, à d'autres entités que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, que le Seigneur nous enseigne à ce que notre prière vocale soit 100% chrétienne, habitée par la ferveur de son esprit, et pas d'autre esprit, non, l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, unique sauveur du monde, l'Esprit du Père. Voilà. L'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. Sinon, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu et les esprits. Alors oui, il y a des postures dans certaines religions, dans certains courants de spiritualité, et je vous annonce que l'année prochaine, nous allons justement, avec un intervenant, avoir des émissions spéciales là-dessus, parce qu'il y a une grande confusion. Surtout dans le monde païen, occidental, post-chrétien, matérialiste. Alors là, comme on ne s'ouvre plus à Jésus, on s'ouvre à d'autres choses. Parce que, rappelons-nous que l'homme est de nature religieuse. Nous sommes naturellement religieux. N'en déplaise à certains courants qui voudraient que Dieu soit tellement relégué à la sphère privée que cela en devienne une curiosité préhistorique. Non. L'homme est naturellement religieux, mais vers qui se tourne-t-il quand il prie? Et voilà. Il y a une réalité qui s'appelle Dieu, la Trinité. Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Il y a une réalité qui s'appelle l'Esprit Saint qui est répandu dans notre cœur. Et bien sûr, l'Esprit Saint nous pousse à dire Abba Père, mais c'est le Père de Jésus, attention, hein, voilà, la première personne de la Sainte Trinité. Alors que le Seigneur nous brûle le cœur dans cette prière vocale et que cette prière vocale corresponde à ce que nous vivons au-dedans, au plus profond de notre âme. Amen. Eh bien, je vous souhaite une très belle écoute de Radio Maria et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.